Nous sommes mercredi 9 septembre 2026, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Regard sur l'actualité sur Djoliba FM 105.0. À la présentation, Oumar Koïta, la mise en onde est assurée par Boubacar Traoré, Grand B pour les intimes. Dans cette émission, nous portons aujourd'hui notre regard sur un sujet qui concerne directement l'avenir du secteur des médias au Mali, le renforcement, la modernisation et la professionnalisation de la presse malienne. Le 4 septembre dernier, plusieurs organisations professionnelles des médias ont publié un communiqué dans lequel ils s'allient et soutiennent des initiatives engagées par la Maison de la Presse. Première initiative, la création d'une commission ad hoc chargée de la relecture de la Convention collective de la presse. Deuxième initiative, la mise en place d'une cellule de préconfiguration chargée de préparer, la création de l'organe d'autorégulation de la presse. Des sentiers énormes qui touchent à la fois aux conditions de travail des journalistes, à la protection sociale, mais également à l'éthique et à la déontologie de la et la responsabilité professionnelle. Alors, où en sommes-nous concrètement? Quels sont les objectifs poursuivis? Quelles garanties pour les journalistes et les employés? Et surtout, quand les professionnels des médias pourront-ils voir les premiers résultats de ces réformes? Nous allons poser ces questions aujourd'hui à notre invité, mais nous donnerons également la parole à plusieurs journalistes afin de recueillir leurs réactions et leurs attentes. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. le Président de la Maison de la Presse du Mali, M. Bandjougou Danté. M. le Président, bonjour et bienvenue et merci surtout de nous avoir fait honneur d'être ici présent.
Merci beaucoup M. Koïta, je suis très honoré d'être avec vous.
Alors M. le Président, pourquoi était-il important aujourd'hui de lancer ces deux sentiers autour de la convention collective et de l'autorégulation de la presse?
Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité que votre radio nous offre pour donner des informations non seulement aux acteurs de la presse, mais aussi à l'ensemble des citoyens pour une bonne compréhension. Ces questions sont des questions essentielles. Il s'agit effectivement de ce que nous avons appelé la proposition de relecture de la Convention collective de la presse et la cellule de préfiguration de l'organe d'autorégulation. Pour ce qui concerne la première décision que nous avons prise, c'est-à-dire la mise en place d'une commission chargée de faire une proposition de relecture de la Convention collective, beaucoup d'acteurs de la presse ne savent pas que la presse malienne a une convention collective. Okay. Et cette convention collective a été signée par les acteurs maliens de la presse en 2009. Il se trouve que cette convention peut être considérée comme étant une convention mort-née. Son application n'a pas été effective. Et le fait que l'application n'a pas été effective peut être expliqué par beaucoup de choses. Nous avons eu un espace médiatique foisonné qui est, en réalité n'est pas assaini. Et ensuite, nous avons constaté aussi qu'avec le développement du numérique, les choses sont allées très vite. Et aujourd'hui, l'adoption de ou l'application de cette convention collective est véritablement un problème. Alors, le numérique offre aussi des opportunités. D'accord. Parce que ce qui était réalité hier ne l'est pas forcément aujourd'hui. Hier, par exemple, une radio, pour bien fonctionner, avait besoin d'un effectif assez important de 20 personnes, sinon même de 30 personnes, avec différents statuts, que ce soit les animateurs, les journalistes, les techniciens, les collaborateurs extérieurs. Mais aujourd'hui, avec la technologie aidant, avec un effectif réduit, il est possible de faire la radio, de faire des émissions et de faire une activité qualitative qui ne nécessite pas l'implication d'un plus grand nombre de personnes. Donc nous pensons que la relecture de cette convention collective, en l'adaptant aux réalités du moment et en voyant effectivement les nouvelles compétences qui sont au niveau des organes, qui ont des diplômes, qui ont la formation nécessaire, il faut essayer de faire la catégorisation, ceux qui sont journalistes, ceux qui sont animateurs, ceux qui sont techniciens, ceux qui sont des collaborateurs, etc. Donc si on arrive à bien définir les rôles et les responsabilités de tout un chacun, dans un environnement économique difficile, il va de soi qu'on arrive à trouver des accords qui nous permettent d'être, de sortir de l'informel. Pour ce qui concerne le second projet, c'est l'organe d'autorégulation. Et en réalité, l'organe d'autorégulation vient pour protéger les journalistes. Parce que nous avons la régulation qui est effectuée par le régulateur et la structure de régulation est une structure étatique. Le journaliste, par définition, n'a de compte à rendre à personne que sa conscience. Donc si au sein de la profession, les journalistes arrivent à se mettre d'accord pour trouver des mécanismes leur permettant de pouvoir s'auto-évaluer, ça nous aide à faire la prévention, la gestion et les règlements des cas de manquement à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Donc voilà pourquoi nous avons jugé nécessaire, à la suite d'une série de travaux, à la suite d'une série de consultations, nous sommes arrivés à la mise en place de ces structures-là qui ne sont pas véritablement ce qui est recherché. Ces structures doivent prendre langue avec toutes les parties prenantes pour trouver des propositions de documents qui seront validées par l'ensemble des acteurs.
Alors, Monsieur le Président, vous l'avez dit, il y avait déjà une convention en place. Alors, la convention actuelle ne répond-elle pas suffisamment aux réalités de la profession? Et si oui, quelles sont, selon vous, les principales insuffisances de la convention actuelle?
D'abord, je crois que de la lecture de la convention de 2009, il y a une évolution. Il y a des types de médias qui existent aujourd'hui qui, en 2009, n'existaient pas. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, ceux qui travaillaient dans les rédactions avec un statut dans les médias, il y a eu une évolution rapide et du nombre de médias et du contexte. Et d'emblée, il faut préciser que il ne s'agit pas de remettre intégralement en cause l'existant.
D'accord.
Certes, un texte qui existe de 2009 à maintenant, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années.
Ça fait beaucoup d'années.
Et nous sommes dans un monde qui évolue rapidement. Si l'ensemble des acteurs se mettent ensemble, prennent connaissance de ce qui est dans cette convention, que ce soit ceux qui sont patrons de presse, ceux qui sont journalistes, ceux qui sont techniciens, ceux qui sont animateurs, immédiatement, on va comprendre réellement que c'est inadapté.
D'accord.
Et c'est sur la base de ça que, de manière consensuelle, collégiale, qu'on arrivera effectivement à voir qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qui ne doit pas être changé, qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui ne peut pas être changé. Et si on arrive à arriver à tous ces résultats, il faut le consensus.
D'accord.
Entre les différentes parties prenantes. Et je pense que si les gens se mettent ensemble, ils vont trouver un accord. Mais trouver un accord entre eux ne suffit pas. Il faut qu'il y ait l'accompagnement des pouvoirs publics pour donner à cette convention probable futur tout son poids et toute son importance.
Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé aussi de la mise en place de cette commission ad hoc. Alors, comment, qui compose cette commission et comment ses membres ont été-ils désignés?
Pour la convention collective?
La commission ad hoc.
La commission ad hoc.
Oui.
En réalité, nous sommes dans un paysage médiatique pluriel.
D'accord.
D'emblée, il faut, pour comprendre, préciser le rôle de la Maison de la Presse.
D'accord.
La Maison de la Presse n'est pas une organisation patronale.
Okay.
La Maison de la Presse n'est pas un syndicat. La Maison de la Presse a en son sein les organisations professionnelles. Et d'ailleurs, toutes les organisations professionnelles ne sont pas membres de la Maison de la Presse.
D'accord.
Mais s'ils reconnaissent dans la Maison de la Presse. La Maison de la Presse a en son sein 10 organisations professionnelles, dont des organismes publics comme l'ERTM et la MAP.
D'accord.
Maintenant, les associations qui sont des associations actrices de la scène médiatique malienne sont aujourd'hui 45 qui sont recensées au niveau de la Maison de la Presse.
D'accord.
Quand vous prenez la presse audiovisuelle, il y a des organisations historiques, les premières organisations créées, notamment l'URTEL. Après l'URTEL, depuis un certain temps, il y a eu la naissance d'autres organisations, comme l'AMATEL pour les télés. Ensuite, il y a eu une autre organisation qu'on appelle ACCESS. Il y a une autre organisation qu'on appelle Panotech. Et en plus de ça, nous avons une autre organisation qu'on appelle l'URPM. D'accord. Donc, toutes ces structures-là se disent des structures de l'audiovisuel, de la télé,
de la radio.
Quand vous prenez la presse écrite, nous avons beaucoup d'autres organisations professionnelles. La plus ancienne est la CEP. Et nous avons le groupe patronal de la presse. Nous avons les cadres de concertation des directeurs de publication. Nous avons l'UNAGEP. Et quand vous prenez les associations de journalistes, nous avons l'UNAJOM, qui est la plus ancienne. Nous avons l'UJIREM. Nous avons l'OJIREM. Et en plus de ces organisations principales, nous avons une multitude d'associations spécialisées. Et il se trouve que c'est les mêmes acteurs qui font parfois la triangulation entre les différentes associations. Cela n'est pas interdit.
Oui, c'est vrai.
Sauf que on ne peut pas être membre, par exemple, des fêtières qui ont les mêmes objectifs. Par exemple, être membre de l'URTEL et être membre de l'URPM, ça ne se justifie pas, ça ne s'explique pas. Parce que c'est des organisations qui font les mêmes choses. Et les statuts et règlements même des associations ne sont pas d'accord avec cet état de fait.
D'accord.
Ou encore être membre de l'URTEL et se réclamer de l'URPM, cela n'est pas possible. Donc, par rapport au choix, il y a des critères que nous avons établis. D'abord, l'expérience, la connaissance de l'environnement médiatique, la capacité de dialogue, mais aussi et surtout la disponibilité. Quelqu'un peut avoir réunir toutes ces conditions. Il est expérimenté, il sait dialoguer et il connaît le paysage médiatique, mais il n'a pas le temps nécessaire de consacrer, de faire les sacrifices pour faire ce travail parce que ses activités ne lui permettent pas de s'engager véritablement. Alors, comme je l'ai dit, si la Maison de la Presse a en son sein les organisations professionnelles publiques et privées, le rôle de la Maison de la Presse est la coordination, la facilitation. La coordination et la facilitation.
D'accord.
Donc, sur la base de ces critères-là, nous avions décidé de mettre en place une commission. D'abord, ensuite, c'était 5 membres, mais on est passé à 6.
D'accord.
Et nous avons fait en sorte que, il faut reconnaître, tout choix est critiquable. Nous avons fait en sorte qu'on n'a pas mis les noms des associations qui accompagnent les personnes qui sont désignées.
D'accord.
Et les personnes qui ont été désignées ont tous été informées en leur disant que vous n'êtes pas là au nom d'une organisation, mais vous pouvez être là au nom, par exemple, de la presse écrite.
D'accord.
Cela ne veut pas dire que tu les représentes, mais tu es là pour faire la facilitation.
D'accord.
Et on a fait le choix sur la base des critères. Et parmi les critères, vraiment, il y a des organisations membres de la Maison de la Presse qui sont également des organisations traditionnelles qui, habituellement, assurent la coordination des activités des autres organisations, que ce soit de la presse audiovisuelle ou bien de la presse écrite. Donc, nous avons décidé de porter le choix, par exemple, pour ce qui concerne la commission ad hoc, à M. Sega Diabaté, qui est un ancien de la presse. Il a été un acteur de la presse pendant ces 30 dernières années. Il n'a jamais été loin des réformes de la presse.
D'accord.
Et d'ailleurs, en 2009, je me rappelle, quand on signait la convention sur le financement de la Fondation Frédéric Ebert, Sega Diabaté a parcouru tous les Mali pour aller sensibiliser dans les coins et recoins du pays les hommes des médias sur la nécessité de se doter d'une convention collective. De cette date à maintenant, il est resté effectivement au service de la presse. C'est même Sega a été vice-président de la maison de l'URTEL, il a été vice-président de la maison de la presse et il continue encore à être très actif dans la vie associative des médias. Il connaît les réalités du monde des médias.
D'accord, d'accord.
Nous avons pris comme rapporteur l'UNAJOM. Et l'UNAJOM, c'est l'Union nationale des journalistes du Mali. Un journaliste, il peut être patron de presse, comme il peut être employé. En tout cas, c'est une union qui a en son sein des journalistes patrons et employés.
D'accord.
Alors, celui-là qui... C'est l'UNAJOM qui a porté le projet. C'est l'UNAJOM qui a approché la Maison de la Presse pour demander à la Maison de la Presse le fait que la convention soit méconnue, le fait que la convention ne soit pas appliquée. L'UNAJOM a demandé à la Maison de la Presse d'essayer de créer les cadres de concertation entre tous les acteurs des médias pour que nous nous mettons ensemble et qu'on essaye de voir comment améliorer l'existant.
D'accord.
Apprécié. Donc, le projet a été proposé par l'UNAJOM.
D'accord.
Donc, l'UNAJOM, qui est la première organisation des journalistes et qui a en son sein patron et employé, bref, des journalistes. Donc, il y a un membre de cette organisation qui est Hassan Kone, qui est désigné pour faire les rapportages. Et lui également, nous avons fait beaucoup de choses à la Maison de la Presse. Il est disponible. Les rapportages, il a l'habitude de faire nos activités. Depuis 2021 que j'ai été là, il nous a toujours soutenu, toujours accompagné. Et même la relecture des textes, des médias qu'on a fait, des textes qui sont encore en souffrance, il a été activement de tous ces travaux-là. Ensuite, nous avons désigné de prendre le président de l'ACEP et on a choisi personne à son absence.
D'accord.
Toutes les personnes qui ont été désignées, ils ont été informés. Et il leur a été dit que vous deviez prendre contact avec tout le monde. Et moi, on vous a pris, non pas pour être les représentants de telle ou telle association, mais pour faire la facilitation.
D'accord.
On a pris les représentants de l'audiovisuel aussi, les présidents de URTEL.
D'accord.
Et nous avons décidé également de faire appel à l'UJIREM, qui est une association de journalistes jeunes. Il faut reconnaître que, qu'on le veut ou pas, aujourd'hui, il y a deux associations qui sont très actives sur le terrain. C'est l'UNAJOM, qui est membre de la Maison de la Presse d'ailleurs, et l'UNAJOM, qui est nouvellement créée, même si elle a été créée il y a quelques années, mais qui n'est pas dans les instances de la Maison de la Presse, mais on l'a mis quand même dans la décision.
D'accord.
Et ensuite, il y a la représentante des patronnes de presse qui sont des patronnes des femmes journalistes là. Elles ont leur association.
Okay.
Donc nous avons pensé que dans le jeu des équilibres,
oui,
on a tenu compte.
C'est pourquoi vous allez voir, mais même dans les réactions que j'ai pu prendre, 4, il y a une femme qui va aussi parler peut-être. Voilà.
Donc franchement, on a voulu en ce moment faire en sorte que toutes les sensibilités soient représentées.
C'est ça.
Mais c'est une œuvre humaine.
C'est ça.
Perfection appartient à Dieu.
Ça, c'est sûr.
Maintenant, et en choisissant ces gens, le président de la Maison de la Presse n'a fait qu'exercer un droit régalien de proposer des gens qu'il croit pouvoir faire un travail.
D'accord. Alors, monsieur le président, dans ce cas, quelle sera précisément la feuille de route de cette commission?
Nous sommes avec la commission pour la relecture de la convention collective.
Oui, oui.
La feuille de route, elle est claire. Elle est bien précisée dans la décision. Il s'agit de prendre contact avec tous les acteurs pour recueillir leurs propositions. Traduire ça en projet et me donner.
Okay.
Quand cela sera donné à la Maison de la Presse, nous n'avons pas qualité de l'appliquer, on ne peut pas l'appliquer. Et à nous de voir maintenant, comme ils vont faire les concertations séparées avec tout le monde, tous les acteurs de la presse, et les propositions écrites, propositions orales, qui seront faites par les uns et les autres, c'est eux qui vont traduire ça en document, et nous on va appeler tout le monde pour venir cogiter sur ces documents-là. Si nous arrivons à nous mettre d'accord sur un document consensuel potable, si nous arrivons à nous mettre d'accord sur un document potable, le travail n'est pas fini. On les valide ensemble. Si nous les validons, le travail n'est pas encore fini.
D'accord.
Il faut l'accompagnement des pouvoirs publics pour son adoption.
Justement, j'allais poser la question. Comment comptez-vous garantir que cette nouvelle convention soit réellement consensuelle et applicable?
Mais, de toute façon, d'abord, il faut être réaliste. Nous avons proposé la relecture pour prendre en compte les réalités du moment et que ce soit conforme à la réalité. Deuxièmement, les gens sont en train de se soucier de l'application, mais moi je me soucie de quoi? Ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon?
D'accord.
Ce que nous sommes en train de faire, est-ce que ça prend en compte la réalité du moment? Trois. Ce que nous sommes en train de faire, est-ce que dans le dialogue, les gens ne vont pas s'entendre. Il faut dialoguer. On ne va pas discuter pour ne pas s'entendre. Si on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose, ça va être validé par tout le monde. Maintenant, vous dites la garantie, on ne va pas inventer des choses qui sont irréalisables.
Oui, c'est vrai.
Il faut être objectif. Quand dès l'instant que nous sommes tous unanimement d'accord que la convention qui existe, elle est méconnue. Elle est méconnue. Elle n'est pas adaptée. Et pourtant, il faut trouver un cadre pour sortir de l'informel.
D'accord.
Sur quelle base on va travailler? Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, si on avait besoin de 20 personnes, si on a besoin de 3 personnes, essayez de voir dans les rapports de travail comment les choses vont se passer. Maintenant, l'application est autre là. Quand les hommes se mettent ensemble, ils font des choix qui doivent être des choix réalistes.
D'accord.
Mais on ne va pas appeler des gens qui ne connaissent pas la réalité. On comprend des gens qui sont censés connaître la réalité, qui discutent. De la discussion, jaillira la lumière.
À présent, écoutons l'avis de certains journalistes sur les deux sentiers ou les deux projets. Ils parlent à la fois de la création de cette commission ad hoc chargée de la relecture de la convention collective de la presse malienne ainsi que de la mise en place de la cellule de préconfiguration chargée de préparer la création de l'organe d'autorégulation de la presse.
Omar Sankaré, journaliste indépendant. Oui, je dirais absolument, c'est une nécessité. C'est une urgence sociale et professionnelle. Un récent rapport de l'Union des journalistes reporters du Mali dresse un constat alarmant. Il disait 63% des journalistes n'ont aucun contrat formel et un peu plus de 74% n'ont aucune couverture sociale et plus de la moitié gagnent au niveau ou en dessous du SMIC. Cette précarité généralisée, due à la non-application des règles existantes, fragilise toute la profession. La relecture est donc une nécessité pour moi, pour adapter les textes aux réalités actuelles et surtout pour offrir un cadre de travail digne et protecteur. Alors, la priorité numéro un est d'instaurer des conditions de travail et de vie décentes. Cela passe par la garantie d'un salaire minimum viable, l'obligation de contrat de travail formel et une protection sociale effective, comme inscription à l'INPS, à l'AMO, etc. La précarité actuelle rend les journalistes vulnérables aux pressions et à la corruption, ce qui nuit à l'indépendance et à la qualité de l'information. En sécurisant le professionnel, on protège la liberté de la presse. C'est une initiative louable et indispensable pour responsabiliser la profession. Pour réussir ce double pari, le futur organe doit impérativement être indépendant, inclusif et crédible. Il doit être composé par et pour les professionnels des médias, comme le prévoit la cellule de préfiguration.
L'autorégulation de la presse est une très bonne nouvelle. Nous attendions ces nouvelles depuis fort longtemps. C'est le lieu de rendre hommage au président de la Maison de la Presse, M. Bandiou Danté, qui a lutté dans ce sens, qui a lutté pour que ce jour soit. C'est une très bonne nouvelle. Ça permettra aux journalistes de résoudre tous les problèmes sous l'arbre à palabre, surtout avec la mise en place des pairs. La mise en place des pairs permettra de sanctionner les journalistes sans passer par les tribunaux. Et tout journaliste qui ne respectera pas l'éthique et la déontologie du journalisme sera susceptible d'être sanctionné conformément aux lois en vigueur qui concernent le monde de la presse. La priorité absolue qui doit garantir la nouvelle convention collective des journalistes doit être les conditions de travail même des journalistes. Qui parle de conditions de travail parle de liberté d'expression, de liberté d'opinion. Parce que le journaliste n'est bien que dans sa rédaction. Un journaliste n'est pas bien en prison.
Je suis Siaka Z. Traoré, journaliste. Si les gens comprennent bien, ça va nous amener très très loin. Quand on est jugé par ses pairs, je pense que c'est un jugement qui est très bien, qui est très bien. Voilà, on a l'œil. Hein, quelqu'un qui connaît le métier comme toi a l'œil sur ce que tu fais. Voilà, et c'est extrêmement important de mon point de vue. L'une des premières activités, c'est quoi, de mon point de vue, c'est de sensibiliser les journalistes qu'ils comprennent l'importance de cet organe. Et si on arrive à sensibiliser les journalistes, les hommes et les femmes des médias, je crois qu'on va aller très très loin. Une fois élu, il a appliqué et que l'organe d'autorégulation, voilà, a les mains libres pour travailler, Je crois que la presse malienne va être encore davantage valorisée. Comme je le disais tantôt, on va exercer, le journaliste malien va exercer sa profession dans la sérénité et dans l'indépendance. Parce que si tu as un salaire décent, tu vis sans souci, entre guillemets, majeur, souci majeur, tu as la sécurité sociale, voilà, on sait, tu es journaliste, voilà, tu as droit à ça, voilà, tu es technicien, tu as, voilà, tout est défini par la loi.
Quant à l'organe d'autorégulation, qu'au-delà de ce qui est prévu, c'est-à-dire d'être non seulement ce médiateur entre les secteurs et puis d'autres secteurs, mais surtout que l'organe d'autorégulation puisse mettre dans ses directives aussi des mécanismes d'écoute, hein, et qui protègent et qui prennent en compte les préoccupations des professionnels du secteur, notamment, et là j'insisterai un peu sur qu'on puisse avoir des mécanismes ou bien des centres d'écoute pour la prévention et le traitement des cas d'harcèlement sexuel et du sexisme ou toute autre forme de discrimination au sein de nos rédactions ou d'ailleurs. Donc vraiment que cet organe puisse offrir ce cadre-là où les professionnels des médias notamment, la gente féminine peut avoir recours, un recours neutre, impartial pour protéger contre le harcèlement sexuel, le sexisme ou d'autres discriminations, que ce soit de la hiérarchie ou des pairs.
Monsieur le Président, vous venez d'entendre les préoccupations exprimées par les journalistes du terrain. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Omar, sans hypocrisie, je suis soulagé.
D'accord.
Sans hypocrisie, je suis soulagé parce que les interviews d'acteurs médiatiques que je viens d'entendre, ces différents acteurs comprennent la pertinence,
d'accord,
et la nécessité de ces deux projets. Et ces deux projets ne peuvent réussir que lorsque il y a l'adhésion des hommes des médias au débat. Mm-hmm. Pour le moment, rien n'est fait. Nous sommes à la phase de la création des conditions du dialogue pour arriver à des structures acceptables, créées par nous-mêmes.
D'accord. Monsieur le Président, derrière cette convention collective, il y a une question essentielle, celle des conditions de vie et de travail des journalistes dans les médias. Alors aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés auxquelles les journalistes maliens sont confrontés sur le plan professionnel et social ?
Moi, je vous remercie beaucoup. Et notre premier problème est un problème structurel.
D'accord.
Il faut que l'environnement des médias soit assaini. Nous sommes en train de devenir un pays où nous avons autant de journalistes que de médias. Ça n'est pas normal.
D'accord.
Il faut assainir le secteur. Il faut arriver à doter la presse en ligne des textes qui lui permettent d'exister. Il faut mettre fin au désordre et à l'anarchie. Mmh. Il faut tout faire pour créer un environnement économique favorable à l'émergence des médias professionnels.
D'accord.
Cela est extrêmement important. Il ne s'agit pas de s'asseoir tous les jours pour dénoncer. Non. Il s'agit de refuser. Il s'agit de refuser le désordre.
D'accord.
Et ce désordre-là, c'est nous qui devons chercher à mettre fin à ce désordre. Parce que quelque part, nous sommes partie prenante de ce désordre-là. Quelque part, parce que les gens gagnent dans le désordre.
D'accord.
Donc, il faut obliger les pouvoirs publics à aller vers l'assainissement. Et ils ne peuvent assainir les secteurs qu'avec la prise de conscience des acteurs des médias eux-mêmes, qu'avec leur propre engagement. Si les acteurs des médias se mettent ensemble, s'ils décident à ce qu'on aille vers l'assainissement du secteur, je suis convaincu que ça va se faire.
Est-ce que cela veut dire que la question des salaires et de la régularité sera-t-elle au cœur de la nouvelle convention collective?
Vous savez, une convention par définition veut dire un accord.
D'accord.
Il faut que les gens évitent de se braquer sur les questions des salaires et autres.
D'accord.
Quand on a une convention,
okay,
ça définit les grandes lignes. okay. les grandes orientations. Uh-huh. Et les rédactions n'ont pas les mêmes moyens.
Okay. Hein.
Deuxièmement, les journalistes n'ont pas la même qualité.
Ok, c'est vrai. C'est le président.
Ça fait mal, mais il faut dire la vérité.
C'est vrai, c'est vrai.
Vous comprenez?
Oui.
Les meilleurs sont recherchés.
Non, c'est vrai.
Ils sont engagés, ils sont bien payés. Tu ne payes pas bien un excellent, il s'en va.
C'est vrai.
Vous comprenez?
Mm-hmm.
Tout ça, là, c'est dans les désordres. Mais comme on le dit en Bambara, nous sommes faits par Chimanchan. Quand les gens s'asseyent pour dire que X a fait ça, Y a fait ça, finalement, mm-hmm. vous allez oublier l'essentiel.
Mm-hmm.
Vous comprenez?
Mm-hmm.
On ne va pas définir un modèle de salaire à la carte où Joliba doit payer ces gens comme ça. Il faut que les gens... Non, la convention définit les grandes lignes.
D'accord. Et la question de qu'en est-il des journalistes employés sans contrat de travail? Est-ce que vous allez parler de ça aussi ou
pas? Nous n'en avons pas à parler de ça. Nous okay. dans la convention, les gens vont parler des rapports qui doivent exister entre les gens. Nous ne sommes pas le syndicat de quelqu'un. Hein? On va dire que quelqu'un qui est un journaliste qui travaille sans salaire ou bien qui travaille dans une rédaction, il n'est pas payé. Pourquoi il ne s'en va pas? Parce qu'il est content de son sort.
Ok.
Donc, si la convention arrive à définir les rapports, vous devez recruter les gens sur la base de ça.
Mm-hmm.
Mais il faut se dire la vérité. Dans ces pays, les gens refusent la vérité. Il y a des gens qui se disent journalistes.
Mm-hmm.
Bon.
Ça reste à savoir.
Non. Dans un média, tout le monde n'est pas journaliste.
C'est vrai.
Et un média n'a pas besoin que de journalistes aussi.
Ça, c'est vrai.
Vous êtes une équipe. Pour que toi et moi soyons là pour parler, il y a un technicien.
Ça, c'est vrai.
Son travail, c'est d'assurer la technique.
Mm-hmm.
La question de la convention ne va pas parler des journalistes, parle des médias. Et les journalistes sont un élément de l'ensemble.
Mm-hmm.
Les journalistes sont un élément de l'ensemble.
D'accord.
Vous comprenez?
Mm-hmm.
Donc, il y a les cadreurs, il y a les photographes, il y a les techniciens, il y a les chauffeurs, il y a tous ceux qui doivent travailler dans l'environnement médiatique ou bien dans un organe.
Okay.
Je ne dirais même dans la rédaction, là c'est autre chose. Mm-hmm. La rédaction, c'est réductrice, dans un organe. Donc, tous ces travailleurs qui sont là, il faut savoir définir la place de chacun. Et maintenant, les diplômes de journaliste que tu as, ou bien la qualité de journaliste que tu as.
Mm-hmm.
Alors, si on te propose de venir travailler sans rien te donner et que tu as accepté de travailler dans ces conditions,
mm-hmm.
il faut t'interroger toi-même.
Donc, si je comprends bien, la convention ne
définit
va
les grandes
rien
lignes.
Préciser en matière d'obligation des employeurs envers les journalistes. Ça, vous n'allez pas parler du tout.
Nous, on n'a pas à se mêler des affaires intérieures des gens.
D'accord.
Il ne faut pas personnaliser le problème.
Okay.
Nous ne nous mêlons pas des affaires intérieures.
Parce que je vois que même les confrères qui ont parlé, c'est dans cet angle-là qu'ils
pas
voient
du tout,
les choses.
Pas okay. du tout. Mais j'ai bien compris ce qu'ils ont dit.
Okay.
Nous n'avons pas à nous mêler des affaires intérieures des gens
mm-hmm.
ou de ceux qui unissent les gens. Cela mm-hmm. n'est pas notre problème.
Mm-hmm.
Notre problème est de créer un cadre qui dit aux gens, pour engager un journaliste, voilà ce qu'il faut faire.
Mm-hmm.
Voilà ce qu'il ne faut pas faire.
D'accord.
Voilà combien tu peux lui donner. Voilà combien tu peux lui donner. Mais cela ne veut pas dire que voilà ce que tu dois lui donner.
Tu dois lui donner obligatoirement.
Voilà.
Ok.
C'est
mais
ça.
Est-ce qu'il sera question de la retraite et des droits sociaux? Est-ce que vous allez parler de ces...
Mais ça, c'est obligatoire dans une convention. La convention, il y a la couverture sociale.
Ok. Alors, vous allez proposer quoi?
Nous n'allons... Comme dis-tu déjà que c'est une commission qui sera mise en place, qui va parler avec tous les acteurs.
Mm-hmm.
Toi-même, journaliste, tu es parti prenant du débat.
C'est vrai.
Vous allez venir faire vos propositions.
C'est sûr.
À travers vos... Mais on ne va pas discuter avec tous les journalistes. Hein.
Ouais,
on va parler avec les associations,
ouais,
avec les organisations.
Ouais, c'est ça, les fêtières. Ok. Et quelle place sera accordée aux journalistes indépendants, pigistes, correspondants et collaborateurs et occasionnels?
Tout ceci, même dans l'ancienne... Malheureusement, tu n'as
vous
pas lu l'ancienne... Malheureusement, j'ai l'impression que bon. Tu n'as pas lu l'actuelle convention.
Oui.
Sinon, tout ça est clairement défini dedans.
Ok.
Je te donnerai...
Ah oui, même si c'est défini dedans, on se dit que si vous devez quand même faire la relecture... Peut-être que vous allez...
La maison de la presse n'est pas la commission de relecture. Il y a une commission qui est mise en place.
Oui, je sais, je sais.
Maintenant,
oui.
Tout ce qu'on va dire sur ça,
mm-hmm.
ce n'est pas à nous de dire
mm-hmm.
ce qui va se faire. C'est les acteurs-là
okay,
qui vont discuter.
Okay.
Rien n'est décidé. Nous, on n'a pas proposé un draft. Hein.
Ok.
On n'a pas proposé de document pour dire déjà venir réfléchir sur ça. On a mm-hmm. dit aux gens de venir dire ce qui est normal. Et maintenant, on va traduire ça en projet.
Ok. Comment prendre en compte dans ce cas les catégories des professionnels à Paris avec les numériques, web journalistes, créateurs de contenu, journalistes multimédia, community managers, etc.
Oh, justement, donc toi-même, tu es en train de dire des choses qui n'existent pas. Attends, oui, il faut les intégrer.
Ça, c'est des nouvelles choses. Vous avez dit à votre début.
Il faut les intégrer.
Oui, c'est vrai.
Il faut les intégrer.
C'est vrai.
Quand on les intègre, là, dans les dialogues, là, on trouvera la solution. Mm-hmm. Il y a des métiers qui existaient peut-être dans les médias qui n'existent plus.
Mm-hmm. Monsieur le Président, il y a aussi les journalistes travaillant dans les médias communautaires ou des petites structures qui disposent de moyens financiers limités. Alors,
tout ça doivent être défini.
Ok. Peut-on réellement améliorer les conditions de travail des journalistes sans s'attaquer à la fragilité économique des entreprises de presse?
Je crois que quand on crée une entreprise, chacun a sa stratégie, mais il faut défendre globalement que les conditions économiques nécessaires soient créées.
D'accord.
Que ce qui empêche les médias d'avoir des opportunités soit combattu. Et faire en sorte que l'environnement soit assaini. Et faire en sorte que l'État assure sa part des responsabilités d'accompagnement des médias de manière conséquente.
Alors, vous avez parlé de cette économie-là. Est-ce que la maison de la presse dispose-t-elle d'un diagnostic précis de la situation économique actuelle des médias maliens?
La situation des médias maliens est précaire.
D'accord.
Elle est précaire. Mais cette précarité, elle est visible, elle est réelle. Elle ne peut pas être niée. Mais et pourtant, tant qu'il y a ce désordre-là, tant que l'argent des médias va ailleurs et que ça ne va pas dans les médias, ça devient un problème.
D'accord.
Et regardez la concurrence et tout ce qui se passe autour.
Oui.
Donc c'est pourquoi il faut assainir. Et qui pour assainir? Il faut au moins que les acteurs des médias montrent le chemin. Qu'ils montrent qu'ils ont la volonté à ce qu'on assainisse. Et les autres viendront les aider à assainir.
Alors, Monsieur le Président, comment concilier l'amélioration des salaires, des droits sociaux avec les capacités financières parfois limitées des entreprises de presse?
C'est ce qui doit amener les gens à comprendre que pour être des structures solides, ce n'est pas d'avoir autant de journalistes, autant d'organes. Il faut encourager les regroupements. Il faut aller vers des grands groupes. L'assainissement suppose tout ça.
Ok.
Il faut aller vers des groupes viables. Il faut évoluer.
Alors, est-ce qu'il est question aussi de travailler sur des mécanismes permettant de renforcer la viabilité économique des médias?
C'est des propositions qui peuvent être faites dans ce sens, mais en réalité, chacun a son business plan. Hein. Mais donc, apparemment, il me semble que c'est la question de la convention là seulement qui est intéressante et bientôt nous serons à la fin de l'année. Tu ne me parles même plus de l'organe d'autorégulation.
On y reviendra. Parce que l'autorégulation, c'est là. Alors, j'allais poser la question suivante. Quel rôle l'État doit-il jouer dans l'accompagnement économique de la presse sans porter atteinte à son indépendance éditoriale?
Dans une démocratie, ce que l'État donne à la presse, c'est pas de l'aumône. C'est pas de l'aumône. L'État doit accompagner la presse pour renforcer la liberté, pour renforcer la démocratie. Et il n'est pas dit que l'État doit accompagner la presse en échange de quelque chose, parce que la presse joue une mission de service public. La presse joue une mission de service public.
D'accord.
Donc, à ce titre, l'État doit créer les conditions de son épanouissement et doit pouvoir l'accompagner.
Alors, nous nous retrouvons juste après ceci. Nous sommes sur Djoliba FM 105.0. Nous sommes dans l'émission Regard sur l'actualité présentée par Oumar Kouita. La mise en œuvre est assurée par Boubacar Traoré Grambé. Aujourd'hui, nous recevons le président de la Maison de la Presse du Mali, M. Bandjougou Danté. Nous parlons des deux sentiers. Il s'agit de la relecture la commission de l'autorégulation de la presse et deuxième chantier, la mise en place d'une cellule de préconfiguration pour préparer la création d'un organe d'autodéfense. Alors, Monsieur le Président, qu'entend-on exactement par l'autorégulation de la presse?
Je vous remercie beaucoup. Comme vous avez déjà dit auto, ça veut dire soi. Mm-hmm. L'autorégulation, c'est la régulation qui se fait à l'intérieur de la profession. Que les journalistes arrivent à s'entendre sur les règles du jeu, mm-hmm. en se dotant de structures qui leur permettent de faire la prévention, la gestion et le règlement des cas de manquement à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Il s'agit de mettre en place une structure va avoir en son sein mm-hmm. un pôle presse écrite, pôle radio, pôle télévision, pôle presse en ligne. Et ils vont faire un monitoring quotidien. Ça sera composé de gens crédibles, mm-hmm. responsables, respectables, mm-hmm. qui vont suivre les journaux quotidiennement, qui vont suivre le plus grand nombre de radios, le plus grand nombre de télévisions. Mm-hmm. Et quand ils constatent des choses, ils peuvent interpeller soit l'organe, soit les journalistes, pour lui donner des conseils, pour l'encadrer. Cela nous évitera un certain nombre de choses. Ça nous évitera des contacts avec les régulateurs. Mm-hmm. Ça nous évitera des problèmes avec des institutions. Mm-hmm. Ça nous évite même des problèmes avec des particuliers. Donc si nous arrivons à nous doter d'une très bonne structure respectable, et que les membres de cette structure sont composés de personnalités compétentes, respectables, mm-hmm. à moralité irréprochable, je suis convaincu qu'ils peuvent appeler une chaîne ou bien un journaliste et c'est les professionnels qui vont l'animer. Quand ils écoutent une radio, quand ils voient un élément, ils peuvent appeler les journalistes. Ah, surtout, nous sommes une société de gérontocratique, une société de corps et de droit. Jeune frère, on a suivi ton émission. Désormais, il faut éviter ça.
D'accord.
Donc, désormais, il ne faut pas faire ça. Mm-hmm. Désormais, on t'encourage à aller dans ce sens. Et cela a l'avantage de corriger les choses avant même les plaintes.
C'est vrai.
C'est ça l'autorégulation.
Alors, quelle différence dans ce cas faites-vous entre l'autorégulation, la régulation et contrôle de la presse?
Et moi, j'ajouterais même la co-régulation aussi.
D'accord.
Et le contrôle ne veut pas dire empêcher. Le contrôle ne veut pas dire empêcher. Le contrôle ne veut pas non plus dire prendre des mesures qui sont liberticides. Mm-hmm. La régulation est une activité régalienne des États. Les États mettent en place des structures, des institutions. Et il y a des mécanismes de fonctionnement, de composition de ces structures-là. Et ce sont ces régulateurs-là qui a la possibilité de vous donner l'autorisation d'exercer.
D'accord.
Et l'autorité qui délivre un papier, c'est cette autorité qui peut la retirer. Si c'est une autorité qui a autorisé à ce que vous créez une radio, mm-hmm. qui a autorisé à ce que vous créez une télévision, mm-hmm. si vous ne remplissez pas les cahiers de charges, les engagements contractuels que vous avez pris pour bénéficier de la possibilité de créer une radio ou une télévision, mm-hmm. l'autorité que vous a délivrée, les conditions de retrait sont définies dans cette convention.
D'accord.
Et en plus de la délivrance et du retrait des autorisations, cette autorité a comme prérogative de protéger la liberté de la presse et la liberté d'expression. Cette autorité également a la prérogative de contrôler les contenus des productions médiatiques.
D'accord.
Le mot contrôler ne veut pas dire empêcher, comme je l'ai dit. Mm-hmm. Il s'agit de voir ce qui est à encourager, ce qui est à éviter et ce qui est à interdire. Donc, ça c'est le rôle du régulateur. Mm-hmm. Maintenant, pour ce qui concerne le rôle de l'autorégulation, mm-hmm. c'est ce que je venais de t'expliquer.
Okay.
Ça c'est lorsque les professionnels prennent conscience pour dire que mettons-nous en famille mm-hmm. et essayons de faire en sorte que nous lavions les linges sales en famille pour éviter des problèmes entre nous-mêmes, pour éviter des problèmes entre la justice et nous, mm-hmm. et pour éviter des problèmes entre le régulateur et nous.
D'accord. Alors, bon. Monsieur le Président, pourquoi...
J'arrive. Okay. Il y a pour le contrôle mm-hmm. passe nécessairement par l'autorégulation
et par la régulation. D'accord. Maintenant, la co-régulation, c'est quoi? C'est une collaboration intelligente entre les régulateurs et l'instance d'autorégulation pour arriver à un résultat acceptable.
Ah, ok. Là, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, pourquoi estimez-vous nécessaire, dans ce cas, de mettre en place une nouvelle, un nouvel organe d'autorégulation?
Nous ne nous sommes pas levés seulement un matin pour dire qu'on va mettre en place l'organe d'autorégulation. Uh-huh. Au Mali, l'autorégulation est un phénomène qui est plus ancien que la régulation.
D'accord.
Il y a eu la création d'une première structure il y a 25 ans à peu près, sinon plus, qu'on a appelé l'ODEP.
Ok.
Son rôle était effectivement de produire les rapports périodiques sur le comportement de la presse pour faire le suivi. Mmh. Et même l'organe d'autorégulation qu'on va mettre en place là, il va produire peut-être trimestriellement ses rapports. Combien de médias ont été interpellés? Combien de journalistes ont été interpellés? Sur quelle base? Ou bien qu'est-ce qu'on a reproché à tel ou tel journaliste? Donc, c'est des rapports qui sont produits. Et là, ça permet aux gens de se corriger. L'ODEP n'a pas bien fonctionné parce qu'elle n'a pas pu continuer ses activités. Nous avons mis en place après le CEDEP, le Conseil pour l'éthique et la déontologie professionnelle. Ce CEDEP également n'a pas pu fonctionner correctement. Et aujourd'hui, nous avons dit qu'il faut aller vers la mise en place d'une nouvelle structure en nous inspirant des erreurs du passé.
D'accord.
Pour aller sur de nouvelles bases. Et l'organe d'autorégulation que nous sommes en train de mettre en place, précisons que l'organe n'est pas encore né. On ne connaît pas encore son nom.
D'accord. Ah oui.
On ne connaît pas encore son nom parce qu'on ne peut pas baptiser un enfant qui n'est pas né.
Qui n'est pas né, oui, c'est vrai.
Donc, et son fonctionnement, ses statuts et règlements, ok, comment ça va se passer? Tout cela se fera dans les discussions.
Non. Mais est-ce que cet organe aura vocation à traiter les plaintes des citoyens concernant les médias et les journalistes?
C'est tout cela que nous allons définir dans les échanges auxquels vous serez invités. Qui peut saisir l'organe d'autorégulation?
Ok. Faudra-t-elle formuler des recommandations ou de prendre des mesures disciplinaires?
Bien évidemment.
D'accord. Alors, comme quoi, par exemple, si vous avez...
Vous savez, Oumar, la sanction la plus dure, c'est la sanction des pairs. La sanction des pairs, c'est quoi? Quand vous êtes jugé par la rue, ça ne vous dit rien. Quand vous êtes même jugé souvent par le tribunal, ça peut ne pas vous impressionner de trop. Mais des gens qui font le même métier que toi et que toi, tu considères comme étant des modèles, si ils t'appellent pour te dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon.
Ça fait réfléchir. Ouais.
Tu te considères comme étant une référence, comme étant un modèle. Mais toi, tu sais très bien que telle personne est plus formée, est mieux formée que moi. C'est un aîné. Il a plus d'expérience que moi. Il est respectable. C'est lui, pas lui seul, avec d'autres qui t'appellent pour te montrer la voie.
Alors, qui devra composer cet organe pour garantir son indépendance et sa crédibilité aussi?
Je dis, cet organe sera composé par des acteurs de la presse avec des critères bien déterminés. Critères d'expérience, critères de probité. Parce qu'il faut reconnaître que tous les anciens ne sont pas sans reproche.
Est-ce qu'on aura également des employeurs ou bien ce sont des journalistes seulement qui vont composer
J'ai dit que c'est des personnes reconnues,
les juristes,
des gens reconnus pour leur probité professionnelle, technique et morale, qui connaissent le monde des médias.
Même les représentants de la société civile.
Non, on dit autorégulation, conseil des pairs. C'est des gens qui ont exercé ou qui exercent les métiers qui vont y siéger.
Alors, comment garantir l'impartialité de cet organe lorsqu'il devra examiner une plainte contre un média ou contre un journaliste?
Cela dépendra du choix des hommes.
Ok.
Parce qu'on a dit qu'il faut chercher des gens indépendants.
Ok.
Et c'est une œuvre humaine. Et la perfection appartient à Dieu.
Alors, on va parler de l'éthique et de la déontologie maintenant, président. La question de l'autorégulation renvoie naturellement à celle de l'éthique et de la déontologie journalistique dans un environnement médiatique marqué par les réseaux sociaux, la rapidité de la diffusion de l'information, la multiplication des sources, la responsabilité des journalistes est plus jamais et plus que jamais engagée. Quels sont aujourd'hui les principaux manquements déontologiques que vous observez dans la presse malienne?
Bon, en réalité, comme on le dit en Bambara, Bimbi bien à Tawara de Boulou. Mais d'emblée, je me démarque de certaines situations, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des bêtises, qui créent le buzz. Et quand on les demande, ils se disent journalistes. Non, 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 ils sont autre chose. Ils ne le sont pas.
D'accord.
Ça, il faut être très clair. Parce qu'aujourd'hui, le commun des mortels est en train de faire la confusion totale entre tous ceux-là qui parlent dans les médias et les journalistes. Et maintenant, ce que ces gens font, aller piéger les gens pour les enregistrer à leur insu, faire des déclarations toxiques, et tu vas considérer tout ça, ils ne sont pas journalistes. Maintenant, globalement, dans nos médias, avec des professionnels, ils ne sont pas irréprochables. Par rapport aux questions d'éthique et de déontologie, il y a des manquements dans le traitement de l'information.
D'accord.
Par exemple, l'impartialité n'est pas là, parfois. En traitant une information, on sent très bien que le journaliste prend parti.
Okay.
On sent ça chez beaucoup de journalistes. On sent également qu'il y a des excès. Il y a des excès. Les excès, par exemple, il y a des mots qui sont souvent employés.
D'accord.
Qui sont à revoir. Entre autres. Bon, il y a des comportements indélicats.
Okay.
Bon, on ne peut pas citer tout ça.
D'accord.
Mais alors, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens irréprochables.
D'accord. Alors, comment lutter contre la diffusion de fausses informations sans porter atteinte à la liberté d'expression?
Ça, c'est une équation difficile. Hein? Ça, c'est une équation très difficile. Il faut le bon sens, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent de récompenser, mais de sanctionner également. La liberté de la presse ne doit pas être un permis de tout faire.
Ok.
Ça ne doit pas être un permis de tout faire. Ça s'exerce dans le cadre des lois qu'il faut respecter.
Alors, quelles responsabilités les médias doivent-ils assumer face au contenu publié sur les réseaux sociaux?
Les réseaux sociaux ne sont ni plus ni moins qu'un outil.
D'accord.
Les professionnels qui utilisent les réseaux sociaux pour avoir des sources d'informations ou pour diffuser doit prendre des précautions. Des précautions pour que la finalité de son action soit une information juste, équilibrée, vérifiée.
Ok. Quelle place dans ce cas, hein, Monsieur le Président, doit occuper les droits de réponse dans le futur organe d'autorégulation?
Bon, le droit de réponse est toujours souhaitable. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que de plus en plus, les gens n'exercent pas le droit de réponse. Sinon, normalement, quand il y a un problème entre une institution, un particulier et un média, c'est le droit de réponse qui est recommandé. Mais aujourd'hui, quand vous partez sur les réseaux, on a transformé la notion de droit de réponse en autre chose. Qu'est-ce que c'est que le droit de réponse d'abord? Le droit de réponse veut dire qu'un média a fait une déclaration sur une personne, sur une institution erronée. La personne vient sur le même média pour dire sa part de vérité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle droit de réponse et que des citoyens ordinaires considèrent comme étant droit de réponse? Toi et moi venons de faire cette émission, quelqu'un va écouter ça, il y a des choses dedans qui lui n'est pas content, il va dire droit de réponse à Omar Koueta et à Bandjougou Danté.
Ça, c'est pas droit de réponse.
C'est ça. Et ils sortent.
Ça n'a rien à voir.
L'organe sur lequel, ou les médias sur lesquels les déclarations ont été faites, ils laissent ces médias-là. On va dans un autre média, c'est pas ça le droit de réponse. Donc le droit de réponse, ça veut dire qu'un média a fait quelque chose, il faut amener les médias à rectifier.
D'accord.
À la limite, à se dédire pour rétablir les faits. Bon, ça, c'est ça le droit de réponse. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens n'utilisent plus le droit de réponse? Parlons-en. Hier, quand une radio parlait de quelqu'un ou d'une institution, dans un canal bien déterminé, toi et moi, nous venons de faire notre émission dans un canal 11-12. Et il y a des choses qui se sont passées dedans, qui concernent quelqu'un. Il fait la demande, il vient dans le même canal, on lui donne le même temps d'antenne, il donne sa part de vérité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens constatent?
les émissions sont mises sur les réseaux sociaux, les articles de presse sont mis sur les réseaux sociaux, les productions de télé sont mises sur les réseaux sociaux, c'est partagé et une émission qui est réalisée ici tout de suite, la peut se retrouver au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Afrique du Sud. Donc les gens se disent qu'on a parlé mal de moi, si je viens en droit de réponse, ce n'est pas évident que tous ceux qui ont suivi l'élément sur les réseaux sociaux, que ce soit les mêmes personnes qui vont voir la réponse. Il y a quelqu'un qui est content en voyant une intervention qu'il partage. Mais le droit de réponse apporté à l'intervention ne l'intéresse pas, il ne partage pas ça. Et les gens préfèrent en ce moment aller régler leurs problèmes au tribunal. Parce que pour eux, en allant au tribunal, le problème, il est mondialisé.
D'accord.
Et la mondialisation du problème, la finalité, c'est de mettre l'auteur en prison. Et là, il va dire que de toute façon, quand les gens vont voir que telle ou telle personne est allée en prison, on va demander pourquoi il est allé en prison, parce qu'il a dit des choses sur telle personne qui ne sont pas correctes. Donc, les gens se soulagent avec ça. Donc, c'est pourquoi on n'utilise pratiquement plus les droits de réponse et les gens préfèrent saisir directement la justice. Donc, c'est pour limiter ces saisines de justice-là que nous voulons essayer d'être un intermédiaire à travers l'organe d'autorégulation entre les organes, les journalistes et la justice et les institutions et les populations.
Alors, Monsieur le Président, en 45 secondes, puisque nous sommes à la fin de l'émission, pratiquement à la fin de l'émission, et c'est votre dernière prise de parole, quel message avez-vous adressé aux journalistes, aux employeurs, aux organisations professionnelles et à l'ensemble des acteurs de la presse malienne qui entendent des résultats concrets de cette initiative? Et puis, n'oublions pas aussi, hein, nous sommes captés de l'autre côté de Ségou, vous êtes de Ségou, si vous avez un mot, juste un mot à dire aux Ségouviens, vous écoutez.
Je commence d'abord par le mot adressé aux Ségoviens.
Ok. Allez-y.
Ambisegu Befo, Bako Anibanye. Ambisegu Belajer Lenfo, Bako Anibanye. Alaka Tlehere, Alaka Sabouj Mankany, Alaka Mali Basigi. Et pour ce qui concerne le mot adressé ou à adresser aux acteurs de la presse, la maison de la presse est dans son rôle. Et tout ce que nous posons comme action, nous le faisons dans le cadre de l'intérêt général. Et nous invitons tout le monde à se mettre en rapport avec nous à travers ces deux commissions.
D'accord.
Pour qu'en frères, confrères, nous arrivons à élaborer des documents en phase avec les réalités du monde actuel qui seront profitables pour les générations présentes et futures.
Alors, Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Surtout, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
À travers cet entretien, nous retenons que la modernisation de la presse malienne passe notamment par deux sentiers importants. La réélection de la convention collective doit permettre de mieux encadrer les relations professionnelles, de renforcer les droits sociaux des journalistes, la mise en place d'un mécanisme crédible d'autorégulation destiné à renforcer l'éthique, la déontologie et la responsabilité professionnelle. Au-delà de ces textes, des structures, l'enjeu demeure celui de leur application effective. Une presse professionnelle ne peut être forte sans journalistes correctement protégés, sans entreprises économiquement viables et sans mécanismes crédibles permettant de garantir la qualité et la responsabilité de l'information. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous dans ce numéro de Regard sur l'actualité. C'était sur Djoliba FM 105.0 à la présentation Omar Kouita. La mise en œuvre est assurée par Boubacar Traoré, Grand B, le Grand B de Kati. Rendez-vous pour l'autre numéro de Regard sur l'actualité. C'est la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Djoliba FM. Merci à tous.